Vous écoutez
RMC.
Il est 6h et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à tous.
5-7, le Morning RMC.
Et c'est l'heure du journal de Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Élise, bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une, les aveux de Cédric Jubilard.
Dans une lettre que son avocat dit avoir reçue, improbable rebondissement, plus de 5 ans après la disparition de sa femme Delphine et alors que l'homme, qui a toujours nié les faits, doit être rejugé pour meurtre en décembre. Le feu qui redouble d'intensité dans les Pyrénées-Orientales, plus de 10 000 personnes ont quitté leur habitation en catastrophe et le Tour de France qui doit passer à proximité privée de spectateurs. Le mondial de foot, la Norvège sort le Brésil, l'Angleterre vient à bout du Mexique et la FIFA fait enrager le monde du foot en cédant aux caprices de Donald Trump.
Coup de tonnerre dans l'affaire la plus mystérieuse de la décennie.
L'avocat de Cédric Jubilard assure ce matin que l'homme avoue le meurtre de sa femme Delphine, disparue en 2020, dont on n'a jamais retrouvé le corps. Marion Gauthier, avec nous en direct ce matin. Cédric Jubilard a toujours nié les faits. Il devait même être rejugé en appel à la fin de l'année, mais c'est une lettre qui change tout.
Oui, une lettre manuscrite et des aveux formels remis ces dernières semaines à ses avocats. Nos confrères de la Dépêche du Midi ont pu consulter ce document. Cédric Jubilard y revient sur cette soirée du 15 au 16 décembre 2020 dans le Tarn, sur cette énième dispute avec son épouse Delphine. Elle envisage de refaire sa vie avec un autre homme, des insultes aux refusés. La dispute dégénère. Comment a-t-il tué l'infirmière de 33 ans? Où a-t-il caché son corps? L'accusé réserve ses détails de la disparition à la justice, déclare son avocat, maître Pierre de Buisson, qui dit le soulagement de son client. Dans cette démarche, ajoute-t-il, Cédric Jubilard veut donner une sépulture à la mère de ses deux enfants. Ses aveux consignés par écrit, c'est un tournant dans l'enquête. L'accusé va devoir être réentendu. Les recherches devraient reprendre. Le peintre plaquiste a été incarcéré il y a 5 ans, condamné en octobre dernier à 30 ans de réclusion criminelle. Le procès en appel devrait s'ouvrir en septembre.
Les explications de Marion Gauthier pour RMC.
Il est 6h02 sur RMC. Le feu gagne du terrain dans les Pyrénées-Orientales.
Et des communes entières ont été invitées à évacuer en une nuit. 26 au total. À l'ouest de Perpignan, 10 000 personnes concernées, indique la préfecture. Autant d'habitants contraints de tout abandonner en urgence, comme à Ille-sur-Tête. Son maire, Alain Fabresse, est plus qu'inquiet.
Ça attriste, c'est vraiment horrible, quoi. C'est la première fois que je vois un feu aussi important aux portes de la ville. Il y a eu des maisons qui ont été dévastées, hein. C'est un désastre. Il y a des gens qui vont perdre beaucoup. Ce que je crains, c'est de voir, comme tout le monde, la végétation qui part en fumée, un patrimoine très très beau, très important, qui risque de disparaître. Enfin, ouais. Et j'ose pas que tout rentrera dans l'ordre. C'est très difficile à vivre, très difficile.
Et 4500 hectares parcourus par ce feu, qualifié de gigantesque par les autorités, c'est deux fois plus que ce qui avait été annoncé hier, alors que le Tour de France passe aujourd'hui à quelques kilomètres de là. Départ d'Espagne, arrivée aux Angles, décision prise hier, ce sera sans public au bord des routes. Écoutez Christian Prudhomme, le directeur du Tour.
Nous sommes convenus, au vu des conditions exceptionnelles et effroyables de l'incendie qui règne dans les Pyrénées-Orientales, de ne pas faire passer la caravane sur les 40 derniers kilomètres de la partie finale en France, de limiter le passage aux coureurs et aux véhicules d'organisation qui sont indispensables, et on invite le public à ne pas venir aux abords de la course ni sur le site d'arrivée.
Et c'est un des fronts, les Pyrénées-Orientales, un des fronts des incendies. Il y en a beaucoup d'autres. Ça brûle dans l'Aude voisine, dans l'Ariège, dans l'Hérault, la Drôme. L'une des seules bonnes nouvelles, elle nous vient du Gard, près de la ville de Lédenon, où un feu a été fixé hier après avoir ravagé plus de 540 hectares. 3 villages ont dû être confinés, alertés par un message de la préfecture avant de passer une nuit la boule au ventre, Martin Lange.
Charlotte a reçu le message de la préfecture hier. Elle est rentrée chez elle à la hâte. Sa maison se trouvait à quelques centaines de mètres des flammes.
C'était tout noir, des petits copeaux de cendres qui tombaient sur le jardin et une odeur très forte de fumée. J'ai vu passer les 7 canadaires là devant ma fenêtre. Ça s'arrête pas de faire des allers-retours.
Elle a préparé des affaires en cas d'évacuation pour elle, son chien et ses 4 chats.
Déjà des habits, des papiers, les cages pour transporter des animaux. En cas où il faut que je parte rapidement. Je suis très angoissée.
John lui tient un hôtel-restaurant à Cabrières, à quelques kilomètres plus au nord. Confiné avec ses clients, il a suivi hier l'évolution du feu depuis sa terrasse.
Toutes les routes sont bloquées, on n'a aucun accès pour venir à l'hôtel et en sortir non plus. Donc on a des clients qui sont bloqués chez nous. On a rassuré plusieurs clients qui sont très angoissés, qui n'ont pas l'habitude de vivre ça.
On préférerait fuir, souffle-t-il. Dans chacune des communes, des locaux ont été mis à disposition pour accueillir les sinistrés.
Et le Gard, hein, tout comme 15 autres départements du Sud sud et du sud-ouest sont aujourd'hui en vigilance orange canicule.
Et comme vous le faites depuis tôt ce matin, que ce soit au 32-16, sur le WhatsApp RMC 0612 424 424, vous nous dites ce que vous voyez, ce que vous sentez, hein, aussi comme Yannick, qu'on entendra juste après ce journal qui est dans les Pyrénées-Orientales, justement le département le plus touché.
Et à 6h05 sur RMC, ça va vous faire réagir également. Vous les avez vus fleurir un peu partout, dans les trains, dans les hôtels. Les espaces sans enfants sont dans le viseur de la Commission des droits de l'homme qui remet aujourd'hui ses recommandations à la Haute Commissaire à l'enfance. Bérangère Bocquillon, vous les avez consultées en avant-première pour RMC. Elles ont pour but, ces recommandations, de mettre un coup d'arrêt à cette tendance.
Oui, avec une recommandation phare, interdire les espaces No Kids en France. Des espaces illégaux, selon Ophélie Marel, juriste à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, autrice du rapport.
C'est discriminatoire. Faire une distinction fondée sur l'âge, c'est une infraction pénale. À partir du moment où on peut discriminer personne dans la société, les femmes ou les personnes âgées, par exemple, on ne discrimine pas non plus les enfants.
Des enfants qui disparaissent de l'espace public, où ils ne sont plus les bienvenus. C'est pourquoi la Commission recommande des panneaux de signalisation à hauteur d'enfants, des rues piétonnes autour des écoles, la réduction de la vitesse des voitures et des classes en plein air. Car nous sommes en train de fabriquer des enfants d'intérieur, explique Ophélie Marel.
Les parents ont peur des accidents de voiture et ont peur des enlèvements. Mais en fait, les enfants peuvent également subir des agressions en ligne quand ils sont sur les réseaux sociaux. Les enfants ne sont pas forcément plus en sécurité à l'intérieur.
Et le rapport conclut que les enfants sont majoritairement perçus comme des personnes à surveiller plutôt que comme des êtres aussi dignes que des adultes. Il faut que ça change.
Alors, faut-il supprimer ces espaces No Kids, les campings, les hôtels? Est-ce qu'au contraire, vous êtes client peut-être de ce type d'établissement? Venez nous le dire, vous êtes les bienvenus au 32-16. On en parle ensemble et on en parlera à 6h40 avec notre invitée, Sarah El Haïry, commissaire à l'enfance, haute commissaire à l'enfance.
C'est elle qui reçoit ce rapport, justement. Ouais. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à interdire ces espaces No Kids là? C'est le débat qui va être posé finalement. On vous attend au 32-16.
Encore une nuit de folie à la Coupe du Monde.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Avec d'abord cette qualification pour les quarts de finale de l'Angleterre. Angleterre réduite à 10 face à un Mexique à domicile. Score final 3-2. La sortie du Brésil, un peu plus tôt terrassée par un doublé du Norvégien Haaland, désormais co-meilleur buteur du mondial en compagnie d'un certain Lionel Messi et d'un autre certain Kylian Mbappé. Cette défaite de 2-1, c'était le dernier match avec la Seleção de la star brésilienne Neymar qui a annoncé sa retraite de la sélection. Et puis alors, c'est une phrase invraisemblable et pourtant bien vraie. Donald Trump parvient à faire annuler la suspension d'un joueur américain. C'est le buteur Folarin Balogun qui avait écopé d'un carton rouge, mais ça, c'était avant un coup de fil du président américain Nicolas Pelletier.
Oui, et selon de nombreux médias américains, Donald Trump a directement contacté le patron de la FIFA, Gianni Infantino, pour demander le réexamen de la suspension du joueur américain Folarin Balogun. Juste après cet appel, l'instance a annoncé la levée de la suspension du joueur, une décision que ne comprend pas le sélectionneur belge Rudy Garcia, qui doit affronter les États-Unis ce soir.
Je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. De mémoire, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'il y ait ce genre de décision. Voilà.
Merci à la FIFA d'avoir réparé une grande injustice, a directement commenté Donald Trump sur son réseau social. Aucune explication n'a accompagné la décision qui pourrait s'apparenter à un acte d'ingérence de la part des États-Unis. Stupéfaite par cette décision, la Fédération belge se réserve le droit de saisir le tribunal arbitral du sport.
Alors, est-ce que ça suffira aux Américains pour battre la Belgique? Réponse dès 2h du matin, à suivre évidemment sur RMC, radio officielle de la Coupe du Monde. Et puis dès 21h, l'autre huitième de finale, Espagne-Portugal, et ce pourrait bien être le dernier match de Cristiano Ronaldo en sélection en cas de défaite.
Quelle affiche, 21h ce soir, Espagne-Portugal, vous allez vibrer hein, sur RMC, ça c'est une de ces belles affiches à ce stade de la compétition, il y en aura de plus en plus. Merci beaucoup Victor Pourchet, vous vivez la Coupe du Monde sur RMC bien entendu. Il est 6h09 et Yannick est en ligne avec nous au 32-16. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Yannick, vous êtes dans les Pyrénées-Orientales, comment ça va ce matin sur le front des incendies?
Bah moi j'ai vu ce matin, enfin j'ai surtout senti ce matin. Pourtant je suis à 30 km à peu près hein, de l'incendie. Et j'ai surtout senti, et quand j'ai sorti mes chiens, j'ai vu qu'il y avait un voile de fumée qui commençait à s'installer apparemment par ici. Mm-hmm. Donc
alors que vous êtes à, vous le disiez, à une trentaine de kilomètres de là où ça brûle.
Ah ouais, j'ai regardé parce que je me suis, même moi, je me suis étonné de le sentir autant.
C'est fort l'odeur. Enfin, pardonnez-moi, Yannick, vous sortez ce matin, vous promenez vos chiens. On sent fort l'odeur de brûlé, d'incendie?
Ça sent pas mal. Ouais. Mm. Ah oui, ça sent pas mal, oui. Donc, moi, je vais faire un appel à tous les gens, mais bon, surtout là, ça va être, il va y avoir plein de touristes qui vont arriver.
Bien sûr.
Il y a un truc magnifique qui existe dans les voitures quand on fume, ça s'appelle le cendrier. c'est magique.
C'est une belle invention.
Oui. Et si au cas où on veut pas utiliser le cendrier, moi, dans ma voiture, je prends les boîtes de comment ça s'appelle, de chewing-gum, je mets un peu d'eau dedans. Et je mets le mégot là-dedans.
Vous avez raison. Voilà, Yannick, vous savez, on en souriait très légèrement, hein, mais on en souriait avec Apolline vendredi matin. On avait quand même, j'avais reçu un message qui disait il n'y a plus de cendrier dans les voitures aujourd'hui. Je sais pas si c'est une excuse pour autant pour jeter sa clope allumée par la fenêtre. Yannick, c'est un appel que vous lancez parce qu'effectivement, dans votre département, ça brûle très vite. Ça brûle très fort, hein. En ce moment, 4500 hectares sont partis en fumée dans les Pyrénées-Orientales, mais aussi parce que les touristes arrivent et que, évidemment, c'est un très beau département, très belle région. Il y aura du monde. On fait attention, Yannick. Merci beaucoup.
Merci.
Et bon courage, Yannick à Perpignan, en direct sur RMC ce matin. Il est 6h11.
Et dans un instant, c'est le choix de la rédaction avec Victor Johannin. Bonjour Victor.
Bonjour Élise.
Vous révélez en exclusivité pour RMC que le nombre de faillites d'entreprises continue d'augmenter. 34 000 défaillances au premier semestre de l'année. C'est 5% de plus qu'il y a un an.
Oui, et pour tous les patrons en difficulté, il existe des solutions pour éviter d'en arriver là, pour éviter les 3D, comme on dit dans les tribunaux de commerce, dépôt de bilan, divorce, dépression.
À tout de suite sur RMC.
5h-7h.
5-7. Le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h13 sur RMC, RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous.
RMC, le choix de la rédaction.
Et les entreprises en faillite sont toujours plus nombreuses. C'est une information que vous révèle en exclusivité RMC ce matin. 34 000 défaillances au premier semestre. C'est 5% de plus qu'il y a un an.
Bonjour Victor Johannin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors pour tous ces patrons au tapis, il y a un passage incontournable, c'est le tribunal de commerce. Victor, vous avez passé toute une journée en immersion au tribunal de commerce d'Avignon.
Oui, chaque semaine, des dizaines de chefs d'entreprise poussent les portes du palais de justice, soit parce qu'ils sont convoqués, soit parce qu'ils viennent demander de l'aide pour redresser leurs comptes. On les reconnaît facilement, ces patrons, les traits tirés, la mine sombre, le dos courbé comme chargé d'un poids, et l'air intimidé par la solennité des lieux.
C'est très dur. Toi, tu es un petit campagnard de ton truc, t'as jamais eu à faire la justice de toute ta vie, et tu te retrouves là avec, je sais pas si ça s'appelle la salle des pas perdus, mais si c'est la salle des pas perdus, ouais, là pour le coup, ça porte bien son nom. Hein.
Patrice a 62 ans, il est aujourd'hui contraint de lâcher son imprimerie et de prendre sa retraite pour éponger ses dettes. Il avait fondé cette imprimerie au début des années 80, une entreprise florissante jusqu'à 16 salariés, mais à partir des années 2010, changement d'époque.
Changement d'époque, puisque le numérique a pris la place du papier.
Oui, voilà, Patrice perd ses contrats et il n'écoute pas son expert comptable qui conseille de licencier.
Comme c'était une petite boîte familiale, il fallait prendre des décisions qui étaient drastiques. Et j'ai pas voulu les prendre parce qu'il y avait des gens avec qui je travaillais depuis 40 ans. J'avais été au baptême, j'avais été au mariage, j'avais été à des anniversaires. Donc tu essayes de tenir. Et puis voilà. Et au moment, tu te retrouves là, sur Avignon, au tribunal.
Au tribunal d'Avignon, les audiences s'enchaînent. Frédéric sort de la sienne. Il vient de demander au juge de liquider sa petite entreprise de carrosserie.
C'est très bien passé, les gens sont très compatissants, très aimables, ils savent bien de quoi ils parlent, ils connaissent bien les problèmes. Là, bon, là, je vais être quand même avec un liquidateur et après je serai libéré. C'est le mot, hein. Sort du tribunal, on est libéré.
Libéré de cette pression permanente, Frédéric repart soulagé d'un poids énorme. Le liquidateur va l'aider à vendre son matériel pour effacer son ardoise. Il a perdu sa boîte, mais il retrouvera facilement du boulot comme carrossier.
Mais Frédéric parlait des juges, ils savent de quoi ils parlent, disait-il. On a l'impression que ce ne sont pas des juges classiques.
Ils portent une robe noire, mais en fait ce sont eux-mêmes des dirigeants d'entreprise qui exercent tous bénévolement, à l'image de Grégory Herbé, expert comptable basé dans la ville d'Orange.
Je pense que ça c'est important pour le chef d'entreprise de savoir qu'en face de lui, il a des gens qui connaissent les mêmes difficultés, qui connaissent les mêmes soucis, qui ont les mêmes inquiétudes, mais on a aussi un rôle de magistrat avant tout. Et le magistrat, il est aussi là pour veiller et sanctionner les comportements déviants.
Et des patrons malhonnêtes, il y en a beaucoup ?
Oui, ça existe, mais c'est une minorité. La plupart de ceux qui défilent au tribunal sont des petits patrons isolés. Et pour eux, c'est trop souvent les 3D, comme on dit dans le jargon. Dépôt de bilan, divorce, dépression. Beaucoup auraient dû venir plus tôt, regrette Aurélie Martinelli. C'est la greffière qui organise toute l'activité du tribunal.
Si vous n'avez pas suffisamment d'argent, finalement, pour régler les dettes que vous avez et les dettes qui sont exigibles, que vous devez à l'instant T, c'est que c'est inquiétant et que vous devez vous inquiéter et que vous devez vous dire « je vais pouvoir trouver de l'aide ». Au tribunal, parce qu'au tribunal, c'est de l'aide qu'on propose. Voilà, c'est d'abord de l'aide.
Car si le patron pousse la porte du tribunal suffisamment tôt, un juge de la prévention peut l'aider à éviter la faillite. Malheureusement, les défaillances d'entreprises sont à des niveaux records, on l'a dit, hein, et au tribunal d'Avignon, on est à plus 10% sur les 6 premiers mois de l'année.
Merci beaucoup Victor Joannin, vous allez témoigner au 32-16 ce matin, notamment si vous l'avez déjà vécu. 10% sur les 6 premiers mois de l'année à Avignon, 5% le chiffre national, c'est l'information que vous donnez ce matin sur RMC. On vous attend en direct aujourd'hui ou alors sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Il est 6h17 et c'est Raph qui est en ligne avec nous ce matin. Bonjour Raph.
Et salut tout le monde.
Comment ça va ?
Super bien.
Super bien. Vous êtes, ouais, je le rappelle, conducteur de convoi sur la route à l'écoute des RMC le matin. Et vous réagissez ce matin à ce débat qu'on va avoir, notamment à partir de 6h40. Faut-il interdire les espaces No Kids ? La haut-commissaire à l'enfance Sarah El Haïry est notre invitée à 6h40 tout à l'heure.
Eh ben, il faut pas interdire des espaces. Ce qu'il faut simplement, c'est rééduquer les parents. Parce que les enfants, ils existent depuis la nuit des temps. Puis dans le temps, il n'y avait pas de problème. Ce qu'il y a de maintenant, c'est que les parents, c'est des parents réseaux sociaux, c'est des parents téléphones. C'est des parents où il y a les enfants rois. Et puis c'est tout. Il faut resserrer la vis des parents pour que les enfants redeviennent éduqués en zone publique. Et puis, ça, il n'y aura plus de problème.
Éduqués et fréquentables. Si les enfants sont bien éduqués, vous acceptez de les avoir au camping, à l'hôtel, dans les trains. C'est ça le sujet pour vous, Raph?
De partout, un enfant dans le train, s'il fait, je sais pas, du coloriage, il regarde un livre et tout, au lieu de taper dans les sièges, hurler, crier, sauter de partout, il est pas pénible, enfant. Pareil au restaurant. Et puis, c'est pas en mettant des téléphones dans les mains des enfants de 3 ans dans les restaurants ou dans les magasins, dans des poussettes, que ça va les calmer. Hein.
Je sais pas, moi, alors là, pour le coup, je suis d'accord avec vous, ça calme personne, hein, les écrans, mais le problème, c'est que les parents sont, les autres adultes sont devenus tellement intolérants que pour beaucoup de parents, c'est quand même une solution aussi pour avoir la paix. Hein. Je vous parlais des enfants d'aujourd'hui par rapport aux enfants d'avant. Moi, j'ai aussi l'impression que les adultes sont devenus nettement moins tolérants que par le passé.
C'est vrai que les parents sont devenus aussi très spéciaux, mais je pense qu'il y a eu un gros bug, là, dans les années 80, ça s'appelle le service militaire. Parce que moi, j'ai que 41 ans, mais j'ai servi 9 ans le drapeau et franchement, j'ai l'impression d'être un extraterrestre par rapport à d'autres personnes.
J'ai pas compris le lien, Raph, avec le service.
Eh ben, en fait, c'est que le service militaire, il éduque les gens à vivre en communauté. C'est que derrière, il éduque aussi au respect des autres et puis au respect tout court, quoi, des règles et tout ça. Si les gens, ils en ont marre, c'est parce qu'il y a plus personne qui respecte rien, que ça aille du parking au stationnement, au code de la route, et puis n'importe, enfin, voilà, il y a plus de respect de nulle part de tout.
Mais Raph, ce que dit le rapport qui sera remis ce matin à la haut-commissaire à l'enfance, c'est de dire que, en fait, ça crée une discrimination si on interdit les enfants de certains lieux. Vous entendez ce principe-là, imaginez qu'on trouve un autre critère que l'âge des enfants et qu'on dise bah, tel wagon est interdit à tel type de personne, ça vous choquerait pas ?
Moi, vous savez, pourtant j'ai les deux petits jumeaux, mais moi je préfère franchement certains animaux qui se tiennent mieux que certains gosses. Hein.
Et pourtant, vous êtes papa, Raph, je rappelle, vous êtes papa d'enfants en bas âge. Hein.
Ah ouais, 31 mois, 32 mois.
Deux jumeaux en plus, hein, pardonnez-moi, de temps en temps ça doit faire un peu de bruit quand même.
Ah bah j'ai l'impression, mais c'est pareil, moi je les dresse, attention, hein, ma femme elle me regarde avec des gros yeux, moi je les dresse comme à l'armée, hein. C'est comme ça, c'est pas...
Alors, on dresse pas, on dresse pas des enfants, hein. C'est pas du dressage, hein, l'éducation.
C'est le terme il peut être choqué, bah alors j'éduque mes enfants comme moi j'ai été éduqué par mon grand-père qui était militaire, et voilà, et puis ça marche bon.
Ben Raph, merci de votre appel. Alors, on va soumettre ça à Sarah El Haïry, la haute commissaire à l'enfance, qui sera avec nous à 6h40 tout à l'heure. Raph, qui a plutôt, j'ai l'impression, une explication sur les No Kids, mais on a entendu des arguments enfant-roi, etc. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que est-ce que les enfants ont leur place dans la société, partout dans la société ? C'est aussi la question qu'on pose ce matin au 32-16. Il est 6h20 sur RMC.
Le monde est à moi. Il aurait dû monter sur la scène des Ardentes en Belgique ce week-end, mais Booba en a décidé autrement, une annulation à la toute dernière minute, car le Duc, comme il aime à se baptiser lui-même, refuse de partager la lumière avec des influenceurs. Les aigles ne volent pas avec les pigeons, rappelle-t-il, il y a quasiment 10 ans, il en fait la démonstration et c'est sur Instagram qu'il a annoncé la nouvelle à ses fans. Se mélanger à ça serait un sacrilège. Ça, ce sont donc les créateurs de contenu.
Ça fait ça l'horreur, t'as plus de followers, t'es plus personne.
Et notamment le streamer Anime, qui a tenu des lives pendant le festival et que B2O avait qualifié de cafard du vide en décembre dernier après ses propos jugés racistes à l'égard de la chanteuse Ronisia. Alors vous le savez, hein, Booba, il mène un combat contre ceux qu'il appelle les influx voleurs. Il a d'ailleurs dénoncé aussi la présence du commentateur de télé-réalité Jerem Star. Dieu merci, écrit-il, j'ai fait ma place et je n'ai donc pas besoin de cautionner tout et n'importe quoi pour survivre.
Tant pis pour les fans qui avaient leur billet pour
prévenu
le festival.
Prévenu 24 heures à l'avance, hein, ben c'est oui. Short.
En général, on a nos places un peu avant.
Bon, il est 6h21 sur RMC et RMC Story. Bon réveil, les grands titres à la une ce matin, Élise.
Et la canicule qui est de retour alors qu'une vingtaine de feux sont en cours en France comme dans les Pyrénées-Orientales où 4500 hectares ont déjà brûlé. Plus de 10 000 personnes ont été évacuées. Ce sont les deux titres à la une ce matin. Et puis le mondial, évidemment, avec la déception immense du Brésil éliminé de la Coupe du Monde hier soir par la Norvège, qui retrouvera l'Angleterre en quart de finale. L'Angleterre tombeur cette nuit du Mexique 3-2.
Il est 6h22 et le docteur du morning est arrivé. Bonjour Aurel Guedj.
Bonjour.
Salut, de quoi est-ce qu'on parle ce matin?
Et ce matin, on s'intéresse à la balance connectée, gadget ou vrai outil de santé.
A tout de suite sur RMC et RMC Story.
Jusqu'à 7h.
5-7, le morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h25, bon réveil avec RMC.
RMC, consultation gratuite.
Et c'est l'été, Doc. Évidemment, on prépare le summer body. Enfin, évidemment ou pas évidemment. D'ailleurs, on n'est pas du tout obligé de préparer le summer body. En tout cas, certains craquent pour les balances connectées. Est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que c'est gadget? Déjà, ça sert à quoi?
Bah, une balance connectée, déjà, ça sert à mesurer son poids, et l'aspect
sans
connecté,
blague.
C'est juste, bah, non, mais je vous donne une information ouais. Palpitante quand même, heureusement que je suis là. Et puis, l'autre donnée, c'est le fait que ce soit connecté. Connecté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que théoriquement, ça va prendre des informations, ça va les analyser, ça va les mettre sur votre téléphone, ça vous permet d'avoir un suivi. Mais on va dire que la principale fonction qu'il y a sur quasiment toutes les balances connectées, c'est l'impédance-métrie. L'idée, en fait, de cette fonction-là, ça vous aide beaucoup.
Hein, la fameuse.
Non, mais je suis obligé de justifier mon salaire en mettant des mots un peu compliqués.
Ouais, c'est ça, je vois. Il y a des mots qu'on triple.
L'impédance-métrie, l'idée, en fait, c'est vous allez envoyer un courant électrique au niveau la plante des pieds. Mot compliqué aussi, celui-là, la plante des pieds. Et on va mesurer le temps que va mettre, eh bien, à parcourir ce courant électrique. Et le courant électrique, en fait, il passe plus vite dans l'eau qu'il ne passe dans la graisse. Donc, ça va vous donner un pourcentage de graisse. C'est comme ça que ça fonctionne.
D'ailleurs, comme
c'est
pour ça,
que ça, c'est intéressant pour le coup.
Vous voyez, jamais de temps en temps des informations.
Hein. J'aime bien le pour le coup.
Et donc, bah, pour le coup, il faut bien se rendre compte que c'est pour ça qu'on va vous demander toujours d'être pieds nus sur ces balances-là. Et parfois, vous avez certaines balances dans les salles de sport qui fonctionnent de la même façon. C'est juste que ça va pas mesurer le temps pied 1 à pied 2. Vous allez aussi mettre les mains. Ça va mesurer.
Ah oui, moi j'ai fait ça dans ma salle de sport.
Et mains, pieds. Voilà. Donc c'est comme ça que ça
c'est plus efficace ou bah, ça change rien si on met les mains?
Alors ça permet, c'est un peu plus efficace que justement, eh bien vu que vous avez plus de distance, vous avez plus de facilité à mesurer certaines distances, généralement ça vous fait une meilleure estimation. Mmh.
Mais alors du coup, est-ce que ça a un intérêt d'estimer tout ça, de le mesurer?
Alors, eh ben je vais être honnête avec vous, dans l'absolu non. Si vous voulez vraiment avoir votre indice de masse grasse, il faut savoir que vous allez généralement sous-estimer la masse grasse de 4 à 9 % pour ceux qui font du sport et
sur ces balances-là.
Sur ces balances-là, okay. C'est énorme en fait, hein. Il faut savoir que en gros, entre quelqu'un qui a 12 % de masse grasse et quelqu'un qui a 18 % de masse grasse, vous avez d'un côté 12 % quelqu'un qui est normal en gros et quelqu'un qui a 20 % de masse grasse, pour le coup, il est gros. Donc il faut bien se rendre compte que c'est important d'avoir en tête le fait que eh bien la masse grasse, cette valeur absolue, elle n'est pas intéressante et elle n'est pas précise.
Mais ces balances-là, du coup, est-ce qu'elles servent à quelque chose?
Bah, elles servent à donner le poids, déjà. Oui. Mais bon, vous pourriez me dire, une balance normale, ça sert à quelque chose. Et puis, la seconde chose, ça va être pour le suivi. Ça, c'est assez intéressant, au final. C'est que la chose où elles sont assez précises, c'est la valeur qu'elle vous donne n'est pas juste, mais elle est constante dans sa pas justesse.
Si elle baisse ou si elle augmente.
Exactement. Et quand elle baisse, c'est qu'elle baisse vraiment. Ouais. Et quand elle augmente, c'est qu'elle augmente vraiment. Donc pour le suivi, ça pourrait avoir un intérêt. Mais attention, je vais vous lire tous les paramètres qui peuvent changer votre indice de masse grasse. Le niveau d'hydratation, le repas récent, une séance de sport, le cycle menstruel, certaines maladies, certains médicaments et la position du corps pendant la mesure. Donc vraiment, c'est à utiliser avec précaution, à utiliser vraiment au même moment de la journée après avoir mangé la même chose. Donc ça peut... Ouais. Ça peut être un petit peu compliqué, mais bon, ça reste une...
Dépensez pas une fortune là-dedans, quoi. C'est-à-dire que c'est sympa si vous avez envie de mesurer tout et que vous êtes un peu contrôle fric, mais bon, a priori, ça sert à rien
de dépenser.
C'est l'impression que j'avais. Il est 6h28 sur RMC.
Et c'est l'heure de jouer avec Ludovic qui nous appelle depuis le Calvados. Bonjour Ludovic.
Bonjour.
Comment ça va?
Bah très bien, merci, et vous?
Bah très bien. Est-ce que vous avez identifié le mot caché, Ludovic?
Oui, c'est flagorné.
Exactement.
Joli.
Bravo.
Flatté, tout simplement. Ça vous permet de repartir avec votre Coffee Bird, la machine expresso nomade d'Aquila. Vous l'emmenez partout avec vous en voiture, en rando, à la plage, où vous voulez. Elle vous servira à tout moment un excellent café expresso, Ludovic.
Merci beaucoup.
Félicitations, Ludovic. On vous envoie ça dans le Calvados. Il est 6h29. Il est 6h30 sur RMC.
5-7, le Morning RMC.
Un nouveau journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
À la une, le sud face aux incendies.
Et le plus important dans les Pyrénées-Orientales, 4500 hectares parcourus par le feu, 10 000 habitants évacués. Nous sommes sur place en direct sur RMC. Conséquence de ces incendies, la fin de la troisième étape du Tour de France sans public. Aujourd'hui, la faute à ce feu. Et puis la Coupe du Monde de foot. La nuit très agitée, le Brésil à la trappe et l'Angleterre qualifiée.
Et le feu est donc toujours en cours ce matin dans les Pyrénées-Orientales.
4500 hectares déjà parcourus par les flammes dans le secteur de Trévillac et d'Y-sur-Tête, c'est à l'ouest de Perpignan. C'est là que vous êtes en direct ce matin pour RMC, Jean-Wilfried Forquès. Premier gros feu de l'été, est-il toujours hors de contrôle ce matin ?
Bonjour Quentin, c'est une lutte acharnée sur le terrain, mais le feu n'est toujours pas maîtrisé à l'heure qu'il est. Toute la nuit, le combat s'est déroulé au sol pour les pompiers. Difficile combat d'ailleurs dans des zones souvent escarpées, souvent difficiles d'accès. Il y a un quart d'heure, j'ai vu des premiers survols en avion avec des canadairs mobilisés et des Dash également. C'est le cas depuis hier après-midi. Vous entendez certainement les sirènes des camions des pompiers. 200 véhicules mobilisés dans le secteur. 26 communes ont été évacuées pour protéger les populations. Évacuation bien sûr préventive. 700 pompiers se relaient depuis plusieurs heures maintenant ici sur le terrain. Le vent commence à se souffler très très fort ici. C'est une contrainte évidemment supplémentaire pour les soldats du feu qui s'attendent à une nouvelle journée très difficile au contact de ce feu gigantesque, selon le préfet des Pyrénées-Orientales.
Jean-Louis Forquès, donc en direct des Pyrénées-Orientales ce matin pour RMC. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, parlait dans la soirée de 6 feux critiques avant que de nouveau se déclenchent dans l'Aude et l'Hérault notamment. Celui du Gard, qui a parcouru 540 hectares de végétation dans le secteur de l'Aidenon, est fixé. Mais il y a toujours 7 départements du Sud-Est au niveau le plus élevé pour les risques d'incendie, attisés par le vent, on vient d'en parler, attisés par la chaleur et le troisième épisode de canicule, là ça y est, qui s'installe sur le pays avec les 40 degrés déjà atteints durant le week-end.
Et des conséquences économiques pour ceux qui perdent de tout.
Oui, en fin de semaine dernière, vous vous souvenez de Canet en Roussillon qui était touché par un violent incendie ravageant des campings et aussi une entreprise de catamarans. 350 salariés de cette entreprise qui ce matin sont au chômage technique, Alexandre Thibault.
Oui, autant de salariés qui ne reprendront pas le travail ce matin. Dans l'entreprise depuis 26 ans, Samy Ducolombier est le représentant du personnel. Il a reçu plus d'une quarantaine d'appels de collègues.
Ils se mettent à pleurer au téléphone, ils se mettent à pleurer en voyant ce désastre. Ils sont effondrés. C'est quelque chose qui est... très dur à encaisser, quoi. C'est une entreprise qui fait partie de notre famille. C'est elle qui nous fait vivre depuis toutes ces années.
Si le hangar qui abrite les moules, qui servent à la fabrication des catamarans, le plus important, a été préservé, ça n'est pas le cas des deux autres qui ont été totalement détruits. David Etienne, le directeur général délégué du groupe, n'a pas eu d'autre choix que de mettre les salariés au chômage technique.
Le chômage technique, ce n'est pas la panacée en termes de rémunération. Et on ne peut pas gommer le traumatisme de voir un outil de travail partir en fumée. Par contre, on peut rassurer les gens sur le fait qu'ils n'ont pas perdu leur boulot et que ce n'est pas la fin de l'entreprise. On a des banques, on a nos propres ressources financières.
Et les volontaires pourraient être reclassés temporairement sur d'autres sites du groupe.
Ce coup de théâtre ce matin dans l'affaire Jubilar. Cédric Jubilar qui reconnaît sa culpabilité dans la disparition de sa femme en 2020 dans le Tarn. Le journal La Dépêche écrit ce matin qu'il a remis une lettre manuscrite ces dernières semaines à un de ses avocats à 2 mois du procès en appel dans cette affaire et alors qu'il niait catégoriquement les faits jusque-là. Ce cambriolage aussi ce matin dans l'actualité. Alors pas au musée du Louvre celui-ci, mais au musée Lalique en Alsace où une vingtaine de bijoux de grande valeur ont été dérobés. C'était par des malfrats durant le week-end. Le montant du préjudice est estimé à plusieurs millions d'euros. Cambriolage qui met en colère Christian Dorechner, le maire de Vingant-sur-Moder, où se situe le musée.
La femme du ménage a découvert que le musée était cambriolé, sauf que l'alarme s'était mise en place. Les caméras sont mises aussi en fonction, puis il a quand même été cambriolé. Pour moi, c'est une équipe qui était très bien organisée. Faut pas s'en cacher, c'est un musée de France où il y a des pièces uniques de Marc Lalique et de René. Il y a des bijoux, il y a des flacons de parfum, il y a des bouchons de radiateur, il y a des graphiques de Lalique, il y a du verre encore, il y a des arts de la table. C'est le plus gros moteur de tourisme de la région.
Et puis on a vécu un match complètement fou cette nuit à la Coupe du Monde.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Avec, à la fin, la qualification de l'Angleterre. 3-2 contre le Mexique, avec des rebondissements dans tous les sens dans ce match, comme le doublé en 2 minutes du milieu de terrain anglais, Jude Bellingham. Quelques heures avant, c'est le Brésil qui se faisait sortir 2-1 par la Norvège, avec un doublé d'Erling Haaland. Le pénalty de Neymar n'a rien changé pour les Brésiliens.
Et on est déjà à 3 jours du quart de finale de la France contre le Maroc.
Oui, les Bleus qui sont de retour à leur entraînement au camp de base de Boston, Florent Germain.
Oui, la préparation du choc face au Maroc commence véritablement aujourd'hui, depuis samedi soir. Le sélectionneur Didier Deschamps a voulu laisser une période de décompression à ses joueurs. Il a fallu oublier et digérer les coups, les insultes et les provocations des Paraguayens. Se vider la tête avec un peu de temps libre et quelques soins pour les titulaires. Un entraînement léger pour les remplaçants. Les Bleus ont même pu tranquillement regarder l'élimination du Brésil à la télévision dans leur hôtel de Boston. La France a ce petit avantage de jouer son quart de finale de Coupe du Monde jeudi dans la ville de son camp de base où les températures sont d'ailleurs bien plus clémentes désormais. Deschamps et ses adjoints ont prévu une montée en puissance et veulent que les Bleus gardent un état de forme optimal. Le staff soigne aussi la douleur à l'adducteur du milieu de terrain Aurélien Tchouaméni, qui demeure incertain pour affronter les Marocains.
Les prochains matchs au Mondial, l'Espagne contre le Portugal ce soir à 21h, on vivra ça évidemment sur RMC.
Et avant cela, on va vivre sur RMC toujours la 3e étape du Tour de France.
Le Tour qui revient en France après le grand départ à Barcelone, où le Mexicain Isaac Del Toro a remporté la 2e étape hier, offerte sur un plateau, vraiment c'était impressionnant, par son coéquipier, le Slovène Tadej Pogacar, hein, Kevin Morin.
Oui, c'est une passe décisive comme on en voit peu en cyclisme. Au sommet de Montjuïc, Isaac Del Toro remercie son leader Tadej Pogacar. Le Slovène, tellement puissant, se permet d'offrir la victoire à son jeune coéquipier mexicain qui découvre le Tour de France.
Je suis très privilégié. Je n'en reviens pas. Être coéquipier de Tadej, c'est tellement d'émotions. Vous ne pouvez pas savoir ce que représente ce succès pour moi et mon pays.
Isaac Del Toro a gagné hier devant des supporters mexicains en nombre à Barcelone, comme Orlando et Odette.
C'était la victoire qu'on espérait. Même si on la doit un peu à Pogacar, c'est très beau.
C'est beaucoup d'émotions. Comme mexicaine, c'est magnifique. On sait qu'Isaac est capable de faire de très grandes choses.
Un autre jeune talent, Paul Sexas, a lui connu des déconvenues avec une crevaison. Le Lyonnais est aussi passé proche de se faire renverser par une voiture de l'organisation.
Ouais, ça a été compliqué après ma crevaison. J'ai changé 2 fois de vélo, j'ai mis beaucoup de cartouches là. Il a fallu que je rentre dans la bosse après. Il y a des journées comme ça où ça arrive.
Le Français est désormais 6e au classement général, à 42 secondes du maillot jaune Jonas Vingegaard.
Et la 3e étape, 196 km aujourd'hui entre Granollers en Espagne et Les Angles, côté français. Toute la partie française qui sera sans public hein, pour ce tracé de la 3e étape en raison des incendies.
Mais justement, alors sans public, mais alors du coup, vous êtes sur RMC plus que jamais. Hein. Vous vous branchez sur RMC, bien sûr, vous ne manquerez rien de l'étape du Tour et puis après des matchs de la Coupe du Monde qui arrivent avec ce Espagne-Portugal ce soir. Bref, vous restez avec nous toute la journée. Aucune excuse.
Et vous ne manquerez rien aussi du Quintet qui est dans une ville que Quentin adore, les Sables d'Olonne.
C'est en Vendée, ça.
Les oui, c'est en Vendée, absolument. Mmh.
C'est vrai que t'es Vendéen.
Ah non, alors
il est Charente-Maritime, ouais, on va jouer loin, avec des...
Bonjour à tous les Vendéens, hein, et surtout Charente-Maritime. 18h30 ce quintet, le 2, le 9, les pronostics de la Dream Team, le 2 en favori, Jim Dalouette, et le 9 en outsider, Global Duty.
Merci beaucoup Quentin Vinet. Rochelet, rendons à César ce qui est à César et à Quentin ce qui est à Quentin. Voilà, merci beaucoup Quentin Vinet, il est 6h38 sur RMC, vous allez continuer à réagir. Évidemment, la situation sur le front des incendies, on vous attend au 32-16, vous nous dites ce que vous voyez dans le
sud, près de chez vous. On a des photos qui nous arrivent sur le WhatsApp RMC. Vous continuez 0612 424 424. Les débats autour de la Coupe du Monde, bien entendu. Et puis cet autre débat qui est à la une aujourd'hui, les espaces sans enfants qui sont dans le viseur de la Commission nationale des droits de l'homme.
Train, hôtel, restaurant, le phénomène s'étend. Alors la Commission publie aujourd'hui des recommandations pour tenter de le contrer. Bonjour Sarah El Haïry.
Bonjour.
Vous êtes haute commissaire à l'enfance à l'origine de la saisine et vous allez dévoiler les grandes mesures proposées par ce rapport, mais aussi nous dire si on peut aller jusqu'à l'interdiction complète des espaces No Kids en France.
On accueillera Gaëtan de Corrèze aussi dans ce débat. Et puis elle est là, la bande du Morning RMC, la causerie, Virginie Fulpin.
L'arbitrage de la Coupe du Monde nous fait entrer dans l'ère du soupçon.
Et puis Anthony Morel, pensez déjà demain.
Peut-être une révolution dans la prévention médicale, une grosse machine qui scanne l'intégralité du corps humain en moins d'une minute.
A tout de suite sur RMC, RMC Story.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h42 sur RMC et RMC Story.
Et le No Kids va-t-il bientôt être interdit en France? Entre les espaces interdits aux enfants de moins de 12 ans dans les trains, les hôtels, les restaurants, qui sont parfois aussi interdits aux mineurs, le phénomène semble se développer ces dernières années.
Bonjour Sarah El Haïry.
Bonjour.
Vous êtes en direct sur RMC ce matin, haute commissaire à l'enfance. C'est vous qui avez commandé ce rapport, qui avez saisi la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui rend ses recommandations aujourd'hui. Donc, commençons par la plus forte, la principale, interdire ces espaces No Kids.
Oui, tout à fait. Pour une raison toute simple, aujourd'hui, moi, j'entends encore trop de personnes dire « Oui, mais enfin, ça change quoi, c'est pas grave s'ils sont pas là ». En fait, s'il faut renforcer la loi, eh ben on le fera. Aujourd'hui, autoriser que les enfants soient interdits de certains endroits où on les interdit pas parce que on les protégerait. Moi, je me bats pas pour que demain les enfants y rentrent au casino, soyons très clairs. Moi, je me bats pour que on reconnaisse simplement les droits des enfants. Parce qu'aujourd'hui, dire c'est ok, vous avez le droit de vous faire virer d'une terrasse de restaurant parce que vous n'avez qu'une poussette et votre enfant, c'est pas très grave. Un enfant, c'est une nuisance. Un enfant, c'est du bruit. Et donc, si tu payes un petit bonus, tu peux venir sans, et en plus on te garantit qu'il n'y en aura pas. Ça, c'est le début du fait qu'on accepte qu'on fracture notre société.
Vous parlez de discrimination, Sarah El Haïry?
Oui, moi je parle de discrimination. Aujourd'hui, je pense que ça tombe sous le coup de la loi, mais on n'a pas eu... Vous savez, quand vous êtes parent et que vous êtes discriminé parce que on vous a jeté d'une terrasse de restaurant ou que vous avez appelé pour réserver et que finalement on vous dit sans les enfants, il n'y a pas de lit, et puis en fait non, il n'y a pas de place. Eh bien, vous vous dites pas, tiens, je vais aller déposer plainte parce que c'est une discrimination.
Mais vous dites que c'est déjà illégal, en fait, la loi aujourd'hui.
Moi, je
déjà...
pense exactement. Mais si c'est nécessaire, s'il faut clarifier la loi, alors on la clarifiera. Les recommandations sont très claires. Ils disent aujourd'hui, il faut aller avec des actions collectives de parents, d'associations de défense des droits des enfants. C'est une première étape. D'ailleurs, il y a des premières procédures qui sont lancées en France. Donc, on aura de la jurisprudence. Mais s'il faut clarifier, eh bien, on ira jusqu'au bout.
La commission en question, elle pointe le développement de la tendance. Ça, c'est une réalité. Des hôtels réservés aux adultes. On a même beaucoup parlé de la classe spéciale du TGV, la classe Optimum interdite aux moins de 12 ans. Alors, on peut parler de l'enjeu économique, mais sans parler de chiffres, Sarah El Haïry, ça veut dire qu'il y a une clientèle pour ça, il y a une tendance, il y a une demande.
Mais évidemment qu'il y a une clientèle, il y a une tendance. Mais parce qu'il y a de moins en moins d'enfants. Moi, il y en a. Moi, vous les supportez. Moi, on s'habitue. Mais en fait, faut être très clair. Quand on dit qu'on exclut ou qu'on interdit l'accès à un enfant, en fait, vous l'interdisez à qui l'accès, pour de vrai? À sa maman, à sa famille. Ouais. En fait, c'est ça le truc derrière. Et donc, à un moment, faut aller au bout de la démarche. Un enfant, c'est un sujet de droit à part entière. Aujourd'hui, un enfant, jusqu'à ses 18 ans, on a le droit de lui interdire des endroits où c'est dangereux pour lui. Je le disais tout à l'heure, casino, boîte de nuit, même sex shop. Ouais, il y a des endroits où, non, un enfant n'a pas sa place. Mais par définition, dire « j'en veux pas parce que ça fait du bruit », là, vous commencez à installer des choses qui, dans le fond et dans la société, provoquent des vraies conséquences. Je vous donnais l'exclusion des familles, bien sûr, des sujets de santé mentale, des obstacles vraiment à l'acquisition de l'autonomie. Et puis, même un peu plus loin, allons au bout de la démarche. Vous autorisez le fait qu'un enfant n'est pas considéré comme un être à part entière avec des droits. Et quand on sait aujourd'hui l'explosion des violences et des violences sexuelles qui sont faites sur les enfants, il y a un moment, Stop.
Et je pense que Gaëtan va vous rejoindre. Gaëtan qui a composé le 32-16 depuis Ussel en Corrèze. Bonjour Gaëtan, vous vous dites,
bonjour.
Ça montre l'égoïsme de la société.
Oui, plus personne ne supporte rien en fait. Et les gens qui sont dérangés par les enfants, ils sont dérangés par tout et n'importe quoi. Ils sont dérangés par un oiseau qui piaffe à côté d'eux en fait.
Et pour vous, il faut l'interdire Gaëtan?
Ah oui, il faut l'interdire totalement. C'est vraiment pas, c'est pas normal en fait. Parce que les enfants, en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que, entre guillemets, c'est des futurs consommateurs. Et si les enfants, on peut pas les sortir ou les emmener dans des endroits parce que ça dérange des personnes, adultes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont rester enfermés. Ils seront ouverts à rien en fait.
Mais est-ce que c'est si grave qu'il existe des espaces un peu dédiés pour chacun? C'est-à-dire qu'on a un club vacances qui est dédié aux familles et ça leur ferait sûrement bizarre que des fêtards débarquent, et puis on a un club dédié aux adultes sans enfants qui n'ont pas envie de s'encombrer des enfants des autres. C'est si grave que chacun ait son espace?
Que chacun ait son espace, que ce soit des clubs, des choses comme ça, des campings, c'est peut-être pas forcément le problème parce que c'est calé au départ. Mais je m'excuse, mais les trains où on interdit les enfants dans des wagons, les enfants, ils ont toujours pris le train, donc je vois pas pourquoi maintenant on interdirait l'accès à certains wagons pour les enfants.
Ouais. Julien est en ligne avec nous aussi. Gaëtan, restez en ligne. Je crois que vous allez dans le même sens. Donc on va vous accueillir tous les deux et puis redonner la parole à Sarah Alaïri. Julien, à Montpellier, bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous.
Vous aussi, vous êtes plutôt opposé aux espaces No Kids, je crois.
Bah oui, pourquoi interdire les enfants? Enfin, demain, il faudra interdire les vieux, il faudra interdire les gens de couleur. Enfin, on peut aller très loin dans la connerie de certains. Mais l'auditeur...
Pour vous, c'est la même chose, Julien? C'est la même chose que si on disait, là, pareil, c'est les hommes, là, c'est les femmes, là, c'est les noirs, là, c'est les blancs.
Bah,
c'est ça
oui,
que vous
voilà,
dites.
Et comme l'auditeur l'a dit tout à l'heure, c'est des gens qui ne supportent plus rien ni personne. Il l'a très bien dit, hein.
Mais ça trahit quoi, Julien, Gaëtan, Sarah, Laïri, ça trahit quoi? Une forme d'intolérance?
Une forme d'intolérance, une forme de fait qu'on puisse payer pour avoir le droit d'exclure. Enfin, aujourd'hui, gérer les besoins des jeunes, des moins jeunes, des parents, c'est une très bonne chose. Hein. C'est aux établissements de le faire. Mais de là à accepter d'interdire l'accès, c'est là où ça va trop loin. Et puis, on peut pas dans notre société dire « Ah, on fait moins d'enfants, on a moins de familles, notre pays, il se projette pas dans l'avenir, oh là là, comment on peut faire ?» Et dès qu'on peut dire aux jeunes parents et aux parents « Non, mais en fait, vous êtes pas spécialement bienvenus avec vos enfants, venez tout seul ou rien. » En fait, c'est ça le signal. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a le droit de commencer à faire le tri dans notre société. Et on commence par les plus petits et les plus jeunes. Et ben, en fait, non, ça n'a pas de sens. Et je suis d'accord avec votre auditeur. Il y a des pays, d'ailleurs, où aujourd'hui, on commence à exclure les espaces aux plus de 65 ans. On s'arrête tout. Donc, au lieu de penser les besoins de chacun, c'est-à-dire, bah oui, quand t'as un enfant, c'est vrai, t'as besoin d'une chaise haute si t'es un tout petit, ou t'as simplement besoin d'un endroit pour se changer dans les toilettes, mais un peu de bienveillance.
Merci Sarah Alaïri, haute commissaire à l'enfance. On détaille avec vous et avec nos auditeurs ce matin ce rapport de la commission des droits de l'homme qui préconise l'interdiction de ces espaces No Kids. Le débat continue bien sûr au 32-16. Merci Julien, merci Gaëtan. Il est 6h50. Et pour l'heure, les grands titres à la une ce matin, Élise.
Et les aveux de Cédric Jubilard dans une lettre que son avocat dit avoir reçue, selon nos confrères de La Dépêche. Improbable rebondissement plus de 5 ans après la disparition de sa femme Delphine. Et alors que l'homme qui a toujours nié les faits doit être rejugé pour meurtre en décembre prochain. Le feu redouble d'intensité dans les Pyrénées-Orientales. Plus de 100 000 personnes ont quitté leur habitation en catastrophe. Et puis ce coup de fil et ce coup de pression qui indigne le monde du foot. Donald Trump obtient auprès de la FIFA l'annulation de la suspension d'un joueur américain. Les États-Unis qui joueront la nuit prochaine face à la Belgique après Espagne, Portugal, la Norvège et l'Angleterre qualifiées cette nuit pour les quarts de finale.
Il est 6h50 et la bande est là. Virginie Fulpin, Anthony Morel, allez la causerie Virginie, c'est après le match France-Paraguay et même d'une manière plus générale. On se pose quelques questions sur l'arbitrage de la Coupe du Monde.
On a été quelques-uns, ou on va dire quelques millions, à se poser des questions samedi soir pendant France-Paraguay, se poser des questions étant un doux euphémisme. On savait dès le début de la Coupe du Monde, la consigne était donnée de laisser jouer au maximum et de punir moins que d'habitude. Ça se confirme dans les chiffres, c'est-à-dire que les arbitres ont distribué en moyenne 2 cartons jaunes et demi par match depuis le début de la compétition. Et ça, il faut remonter à 1982 pour voir aussi peu de cartons. Alors pourquoi pas, hein, c'est une philosophie qu'on peut défendre. à condition que tout le monde soit logé à la même enseigne. Est-ce que c'est le cas? Je crois qu'on peut tous être d'accord pour dire que, vu les coups donnés par les Paraguayens pendant tout le match, c'est une hérésie qu'ils repartent avec zéro carton, à part pour un entraîneur adjoint, contre trois pour les Bleus. Là, on a un petit problème.
Mais le problème, c'est que l'arbitre manquait d'expérience.
Il faut avoir les épaules solides et le sifflet clair pour arbitrer des matchs à élimination directe dans une Coupe du Monde. Et manifestement, ça n'était pas le cas d'Ouzbek Ilgiz Tantachev. Dès le début du match, il avait le regard perdu. Bon, il était totalement dépassé par les événements. C'est sa première Coupe du Monde. Il avait arbitré deux matchs en phase de poule et c'est tout. Alors oui, il a de l'expérience dans sa zone Asie, mais là, c'est le niveau au-dessus, la pression au-dessus. Et il n'a pas pu gérer. Tous les arbitres interrogés après le match disent la même chose. La FIFA a élargi, en fait, la Coupe du Monde à 48 pays et en même temps elle a voulu élargir à plus d'arbitres, sauf que certains ne sont absolument pas prêts. Je suis pas sûre qu'il lui ait fait un beau cadeau à l'Ouzbek, parce que il va pas se remettre facilement de ce fiasco. Et puis inutile de dire que sa Coupe du Monde, là, elle est terminée.
Hein. Alors il y a aussi des questions sur l'équité de l'arbitrage dans ce mondial.
Et là, vous en parliez, Élise, dans votre rappel de titre. On a l'attaquant américain Balogun qui a pris un carton rouge en 16e de finale contre la Bosnie. Logiquement, il devait être suspendu pour le 8e entre les États-Unis et la Belgique la nuit prochaine, oui. Mais la FIFA lui offre donc une suspension d'un match avec sursis. Il va donc pouvoir jouer. Et ce qui pose problème, c'est donc que Donald Trump aurait passé un coup de fil à Gianni Infantino, le président de la FIFA, pour demander son indulgence. La Belgique, elle se dit stupéfaite. Et si ça se confirme, c'est même un petit peu plus que ça. Cette ingérence, c'est scandaleux. On ne pourra plus avoir confiance en une quelconque décision sans soupçonner une intervention. Alors, on savait que cette Coupe du Monde allait être particulière. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se confirme dans les grandes largeurs.
Merci Virginie Fulpin. Il est 6h53. Anthony Morel, c'est l'heure de la tech. C'est déjà demain. Anthony, on parle aujourd'hui d'une potentielle révolution dans le domaine de la santé et plus précisément de l'imagerie médicale. Un scanner capable de scanner la totalité du corps humain en moins d'une minute.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que demain, peut-être qu'une fois par an, on ira comme ça se faire dépister en entrant dans une grosse machine qui nous analysera sous toutes les coutures. Chaque millimètre carré sera scanné grâce à des ultrasons. Alors, c'est Midjourney qui est une grande entreprise d'intelligence artificielle qui a annoncé ça. Je sais pas si vous les connaissez.
C'est le nom dit quelque chose. Ils font quoi, déjà?
On peut générer des images, mais en général, c'est, tu sais, tu mets ta tête et tu vas avoir ta tête en style Ghibli ou en style Dragon Ball.
Ah oui, oui.
Donc vraiment rien à voir. Ils ont pris tout le monde par surprise. Bon, ça reste des images, mais c'est de l'imagerie médicale, là. Donc c'est quand même quelque chose d'autre. Et donc ils ont annoncé une grosse machine, alors complètement futuriste d'apparence. En gros, on monte sur une plateforme, on va descendre à travers un gros anneau qui est bardé de capteurs électroniques qui vont nous bombarder d'ultrasons et qui vont répliquer une image en 3D de l'intérieur de notre corps, de nos organes, de nos os. Chaque seconde passée dans ce scanner génère l'équivalent de 500 heures de vidéo haute définition. Donc c'est absolument massif, et à partir de ça, eh bien on va pouvoir détecter de manière extrêmement précise la moindre anomalie, le moindre début de maladie avant même l'apparition des premiers symptômes. Et c'est là tout l'intérêt, évidemment. On est dans ce qu'on appelle la santé préventive. Leur objectif est assez dingue. Ce serait d'installer d'ici 2031 50 000 de ces scanners de nouvelle génération dans le monde et de générer 1 milliard d'examens par mois. Révolution potentielle dans le dépistage.
C'est crédible ou c'est juste du marketing?
Alors, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que sur le plan technique, c'est pas complètement absurde. L'entreprise s'appuie sur une technologie qui est bien réelle. C'est la tomographie par ultrasons. Donc ça existe. Après, de là à dire qu'on va remplacer les scanners et les IRM avec cette machine, il va falloir quand même le prouver. Pour l'instant, ils ont testé ça sur 12 personnes. Ils ont un prototype. Donc on est au tout début. Ce qui est intéressant aussi, c'est que leur objectif, c'est pas d'installer ça dans des hôpitaux ou dans des cliniques. En tout cas, pas dans un premier temps, mais dans des spas, par exemple. Donc on pourrait aller se faire un petit massage et puis un petit scanner intégral pour voir si tout va bien.
Ah ben voilà, sacré week-end que nous promet Anthony Morel pour le futur. Merci Anthony. Apo est là.
Salut Apolline. Excellent lundi. Bah oui, très belle reprise de semaine. On ouvre Apolline Matin dans un instant avec cette nouvelle fracassante. Cédric Jubilard avoue le meurtre de sa femme Delphine. C'est l'annonce de la nuit. Selon ses avocats, il a écrit une lettre dans laquelle il raconte cette nuit de décembre 2020 où il aurait tué son épouse. On y revient dans le journal de 7h. À tout de suite.
5-7. Le Morning RMC.